Le titre du message d'aujourd'hui, c'est répondre à l'appel de Dieu. Alors, tout à l'heure, là, il y a eu un appel qui a été adressé, il n'y a pas eu de réponse. Mais le Seigneur nous appelle, il nous appelle tous à servir et à répondre à son appel. Et donc que le Seigneur nous travaille nos cœurs et nous aide à grandir en cela, parce que comme nous l'avons lu, il y a un seul Seigneur, aimer Dieu de tout son cœur, mais aussi aimer son prochain comme soi-même. Et donc le Seigneur nous appelle aussi à manifester cet amour les uns pour les autres, et c'est aussi cela, répondre à son appel. Alors ces deux dernières semaines, nous avons vu ensemble ce texte de 2 Rois chapitre 4, où dans un premier temps, nous avons parlé de la sensibilité, de la compassion d'Élisée envers cette veuve qui était complètement démunie et qui risquait même de perdre ses deux fils puisqu'elle n'avait plus de quoi rembourser ses dettes. Et elle est allée voir Élisée pour que l'homme de Dieu puisse faire intercéder pour elle. Et la question d'Élisée, c'est ce qui avait retenu notre attention: que puis-je faire pour toi? Et Élisée, une fois qu'il a entendu la situation, il lui a dit ce qu'il fallait faire, d'aller voir les voisins, récupérer le maximum de vases et de remplir ses vases avec le peu d'huile qu'elle avait. Et donc c'est ce qui s'est passé, et cette femme a pu faire le nécessaire, rembourser ses dettes et vivre avec ses deux fils. Et puis avec cette tsunamite, cette femme de distinction qui l'accueillait chez elle à chaque fois qu'il était de passage, et cette femme a même demandé à son mari de construire une petite chambre pour Élisée lorsqu'il passe dans la ville, pour qu'il puisse se reposer. Et voyant tant de cette bonne disposition de cœur, là encore, Élisée a posé cette question, notamment à son serviteur Gehazi: que peut-on faire pour elle? Que peut-on faire pour toi? Il disait donc à cette femme. Et donc, ça a été ça le thème du message: que faire pour toi? L'expression de notre amour envers notre prochain, voyant son besoin. Et nous, d'une certaine façon, nous avons parlé de cette sensibilité d'Élisée vis-à-vis de son prochain. Et après, nous avons parlé de ce cœur insensible, de ce manque de foi, de la cupidité de Gehazi, qui fut donc pour lui des obstacles qui l'ont empêché d'être le serviteur, d'être le successeur d'Élisée, bien qu'étant le serviteur d'Élisée, alors que normalement il aurait pu et dû être ce successeur. Mais malheureusement, Gehazi ne l'a pas succédé parce que dans son cœur, il y avait toutes ces choses qui l'empêchaient de pouvoir être ce serviteur de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelles étaient les qualités d'Élisée, on va parler d'Élisée aujourd'hui, qui ont justifié le fait qu'il a été choisi justement pour être le successeur d'Élie. Et dans 1 Roi chapitre 19, il est parlé donc d'Élie qui passe par un moment de déprime. Il souhaite même la mort parce que la reine Jézabel a promis de le tuer. Et ça, on le lit dans 1 Roi chapitre 19. Et pour Élie, il dit que pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant: « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il voulait en finir. Et donc, avant cela, le Seigneur montre qu'il est sensible à la détresse de ses serviteurs, de ses servantes. Et les serviteurs de Dieu peuvent passer justement par des moments très difficiles sur le plan moral, spirituel, émotionnel. En tout cas, Élie était très déprimé, voyant la situation de son pays. Il pensait même être le seul qui soit resté fidèle à Dieu, parce qu'il n'avait pas la connaissance de toutes choses. Mais voyant la situation de son peuple, il était complètement déprimé. Il était complètement déprimé. Et nous pouvons lire ensemble ce texte de 1 Roi chapitre 19. Alors, 1 Roi chapitre 19. Et là, on voit que Dieu voit la situation de son serviteur et il va venir à sa rencontre. Et on peut lire les versets 1 Roi chapitre 19, versets 13 à 18. Alors, quand Élie, alors je peux lire à partir du verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va. » Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu rendras Azaël pour roi de Syrie. Tu rendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu rendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abdelmeola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Voilà, on peut déjà s'arrêter là, nous allons lire la suite après. Donc, avant de le rappeler à Élie à lui, donc il sera enlevé au ciel, Dieu lui dit, « Oui, je vois ta détresse, je vois ta souffrance. » Mais j'ai encore une mission pour toi. Tiens bon, voilà, il faut tenir le coup. J'ai encore une mission pour toi. Et donc, il lui demande de rendre Azaël pour roi de Syrie et Jéhu pour roi d'Israël et Élisée pour prophète. Il lui dit à sa place. Donc, Dieu lui dit, ok, je connais quelqu'un qui peut prendre ta place et il s'appelle Élisée. Et donc, pour le succéder, on voit que c'est Dieu qui a choisi Élisée. Dieu choisit, frères et sœurs, qui il veut pour l'accomplissement de son œuvre. Et parce que là, on voit que ce n'est pas Élie qui a choisi Élisée, mais Dieu. Élie n'a fait qu'obéir à l'ordre de Dieu. Élisée a été choisi par Dieu pour succéder à Élie, comme il avait lui-même choisi Josué pour succéder à Moïse, ça on le lit dans Nombre chapitre 27. David pour succéder à Saül dans 1 Samuel chapitre 16. Et pour que Samuel, dans l'histoire de David, comprenne le choix de Dieu, il a fallu que l'Éternel lui explique et lui dise à Samuel que. Parce que lorsque Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe, Samuel a vu d'abord le frère aîné, bien, bien grand, bien costaud, et il lui a dit, certainement c'est lui le roi. Et donc Dieu dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Donc en parlant d'Éliab, le frère aîné. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est vraiment là l'élément essentiel. L'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà, donc Dieu connaissait le cœur d'Élisée, tout comme il connaissait le cœur de Géasi. Et Géasi ne pouvait pas succéder. Le texte ne nous montre pas, ne nous dit pas à quel moment Géasi est devenu le serviteur d'Élisée. Mais quoi qu'il en soit, il était là. Mais il n'a pas pu succéder à Élisée parce qu'il n'avait pas un cœur disposé, un cœur selon Dieu. Donc, la première des choses que je veux déjà souligner par rapport à cela, c'est que quand un successeur est nécessaire, parfois dans la mission ou dans l'église, les responsables doivent écouter le murmure doux et léger, il est dit. Doivent écouter la voix de l'Éternel qui leur indiquera le chemin à suivre. Et donc, je vais revenir sur cette écoute qui est nécessaire. Les responsables ou l'Église, parce que c'est l'Église qui décide, doivent aussi se soumettre à la volonté de Dieu et reconnaître celui ou ceux que Dieu a appelés à une tâche ou une autre, comme il l'a dit concernant Paul et Barnabas dans Acte 13, alors qu'ils étaient là en train de jeûner, les anciens étaient en train de jeûner, le Seigneur leur dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et donc, il est important que cette oreille soit exercée de manière individuelle, mais aussi collective, pour pouvoir entendre et comprendre quel est le serviteur, la servante que Dieu a choisi, voulu pour tel ou tel service. Parce que je ne veux pas seulement, on ne va pas se cantonner aux responsables spirituels, mais quel que soit le service qu'on a, dire: Seigneur, qui pourrait faire telle ou telle tâche? Et puis que le Seigneur puisse nous éclairer, nous montrer, et voir si cette personne n'est pas apte ou pas. Ou si elle est apte, nous devons reconnaître cette personne. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Il demande donc de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et ça, on le lit dans Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. Et Luc nous dit qu'après après avoir prié toute la nuit, il appela ses disciples. Et parmi tous ses disciples, il va en choisir 12 qui va donner le nom d'apôtres. Et donc, il va les envoyer pour qu'ils annoncent que le royaume de Dieu est proche. Et donc, cette parole du Seigneur est ô combien d'actualité encore aujourd'hui. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et il demande de prier. Et je disais tout à l'heure que nous maintenons ces réunions de prière parce qu'il faut que l'Église prie, parce que la moisson est grande. Il faut prier et que Dieu puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et ce qui est intéressant de voir dans ce texte de Matthieu, lorsque Jésus leur dit que la moisson est grande, Matthieu introduit donc dans le chapitre 10, verset 1, il prend parmi ses disciples. Il leur demande de prier, mais il leur dit: alors vous, voilà, c'est vous que j'envoie. Et parfois, on est toujours prêt à prier, mais lorsque Dieu nous dit c'est toi, là, on traîne des pieds. Lorsque Dieu nous met à cœur et nous montre que oui, tu pries pour les ouvriers, mais cet ouvrier, c'est toi que je veux envoyer, là par contre, il n'y a plus personne. Et donc c'est là tout ce thème-là de répondre à l'appel de Dieu. Répondre, lorsque Dieu nous dit, voilà, il y a ça à faire, et que dans notre cœur on dit oui, je pourrais le faire, et que malgré ça on ne le fait pas, alors là on désobéit. Dieu appelle-t-il encore aujourd'hui des hommes ou des femmes à son service? La moisson, frères et sœurs, est toujours grande. Et il y a toujours peu d'ouvriers. Et ça, on le constate dans l'Église. Et le Seigneur appelle encore aujourd'hui les hommes et les femmes, selon le ministère qu'il a prévu pour eux, pour des services divers dans sa moisson. Sommes-nous encore sensibles, frères et sœurs, à la voix de Dieu? Sommes-nous à son écoute? Élie est complètement déprimé, mais voilà, il a su discerner la voix de Dieu. Il a entendu et il a compris cette mission que Dieu est pour lui, d'aller et de choisir notamment Élisée pour le succéder. Sommes-nous, frères et sœurs, comme le serviteur de l'Éternel qui décrit dans Ésaïe chapitre 50, il dit que l'Éternel éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Nous avons besoin vraiment que nous soyons comme ces disciples, que Dieu puisse éveiller chaque matin, qu'il éveille notre oreille pour que l'on écoute comme écoutent les disciples, pour pouvoir discerner la voix de Dieu, pour pouvoir voir lorsqu'il nous dit, lorsqu'il nous parle à notre cœur et que nous puissions y répondre. Et si nous ne prenons pas le temps d'être à l'écoute de Dieu, nous ne saurons pas discerner son appel à son service ou pas. Donc d'où la toute nécessité de se discipliner à lire, à méditer la parole et à obéir à ce que la parole nous dit. Le disciple de Jésus, qui donc se discipline à lire la Bible, la parole de Dieu, et à écouter son maître, saura ce que son maître attend de lui ou d'elle. Et le problème de fond, je pense que c'est cela. C'est que plus on avance, et plus nous passons de moins en moins de temps dans l'étude de la parole de Dieu, dans ce temps de méditation où on fait comme le Seigneur nous dit, voilà, on reste tranquille dans un lieu où on n'est pas dérangé, on ouvre la parole de Dieu, on prie, Seigneur, parle-moi, Seigneur, et puis on lit la parole, et puis on apprend sur Dieu, on apprend de Dieu. On apprend, Dieu nous montre des choses sur nous, comme un enfant a dit que la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Voilà, et Dieu nous parle à travers sa parole. Mais il faut venir avec cet esprit ouvert, disposé pour pouvoir l'écouter. Et lorsque Dieu nous parle par sa parole, alors il attend de nous que nous obéissons. Et donc, si Dieu met dans notre cœur quelque chose de particulier, comment réagissons-nous? Et si nous entendons ou nous voyons qu'il y a un besoin particulier, comment réagissons-nous? Sommes-nous prêts à répondre à l'appel? Voilà, lorsque nous disons qu'il y a un besoin, est-ce que nous écoutons, nous entendons ce besoin et puis de dire, voilà, suis-je en mesure d'aider ou de faire, et puis remettre ça devant le Seigneur? Quelle est, frères et sœurs, notre attitude face à cet appel, cette chose que Dieu a mis sur notre cœur afin que nous l'accomplissions? Tous, toutes et tous, nous recevons un appel à un moment donné, pour réaliser une tâche et accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et ça, c'est dans Éphésiens 2, verset 10, qu'il est dit. L'appel ne concerne pas seulement l'appel à un ministère pastoral, à un ministère d'évangéliste ou autre, mais l'appel de Dieu auquel il faut répondre, c'est, comme dit l'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Jacques nous dit, Jacques 4, verset 17, c'est faire celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Donc dès que j'ai la possibilité de faire un bien, si je peux le faire et que je ne le fais pas, je commets un péché. Et l'apôtre Paul, il dit dans Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Donc on doit s'interroger. Donc l'appel de Dieu, c'est lorsqu'il il parle à notre cœur, à notre esprit, et que nous entendons que, voilà, il y a... Est-ce que tu réponds favorablement ou pas? Alors, frères et sœurs, que notre cœur soit bien disposé pour répondre à l'appel de Dieu. Alors, comment Élisée a-t-il répondu à l'appel de Dieu? Nous lisons alors la suite de ce texte de 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voilà, donc dans ce passage, je voudrais souligner trois choses. Déjà, premièrement, que avoir un cœur bien disposé pour répondre à l'appel de Dieu, c'est déjà être prêt à tout quitter pour Dieu. Versets 19 et 20, on voit que Élisée était là en train de travailler. Et voilà, il était avec cette douzième paire de bœufs. Il travaillait. Et donc, là, il a quitté tout et il a suivi Élie. Être prêt à tout quitter pour Dieu, pas pour se glorifier, et rappeler à Dieu que nous avons quitté telle ou telle chose pour lui, ce serait de l'orgueil. Mais être prêt à tout quitter pour Dieu au nom du Seigneur Jésus. Donc là, le texte nous montre que Élie, en quittant son travail, est conscient qu'il aura moins d'argent, voire pas d'argent du tout. Mais il est prêt à partir. Élisée, pardon. Il a quitté sa famille. Donc, cause aussi de souffrance sur le plan sentimental, de chagrin, de solitude, de célibat. Bon, on ne sait pas s'il était marié ou pas, mais en tout cas, il quitte sa maison, le fruit de son labeur. Il était certainement assez aisé, hein, compte tenu le nombre de bœufs qu'il a. Donc, on peut imaginer aussi une grande surface de terrain à cultiver. Et donc, il est prêt à tout quitter pour suivre Élie, sans savoir où il va peut-être dormir, etc. Et nous qui connaissons le Nouveau Testament, on sait que c'est exactement la même chose. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, alors ils ont quitté et le Seigneur leur a dit aussi ces mêmes conditions-là. Lorsque nous quittons à cause du nom du Seigneur Jésus, c'est pour apprendre à vivre dans la dépendance de Dieu. Élisée avait besoin d'apprendre à vivre dans la dépendance de Dieu. Il avait toujours tout, certainement il a grandi avec le nécessaire, même le superflu, il allait être héritier de pas mal de choses, mais en abandonnant tout, en étant prêt à tout quitter, de cette façon, dans son cœur, il a dit, je fais confiance à Dieu, c'est lui qui va pourvoir à mes besoins. La nourriture nous est donnée par Dieu. Élie, par exemple, il n'y avait pas de quoi manger, Et Dieu la nourrit à plusieurs reprises, par les corbeaux, par la veuve de Sarepta qui n'avait plus rien à manger, et par l'ange de l'Éternel. Donc à plusieurs reprises, on voit que c'est Dieu qui intervient pour pourvoir aux besoins, à la nourriture pour son serviteur. Élisée, pareil, donc il est parti, il ne sait pas où il va dormir, mais Dieu pourvoit aux besoins, comme cette femme, cette tsunami qui va dire à son mari, faisons-lui une chambre pour qu'il puisse se retirer. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants, Dieu pourvoit aux besoins de ses serviteurs. Élie, pareil. C'est lorsque le peuple de Dieu pratique l'hospitalité comme Dieu lui demande, alors lorsque les serviteurs, les servantes en ont besoin, ils n'ont pas de problème pour trouver un lieu pour dormir. Et puis, il quitte sa famille, mais Dieu fait entrer dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Lorsque on quitte sa famille de chair, alors le Seigneur nous permet d'être aussi, avoir une nouvelle famille, la famille de Dieu, des frères et des sœurs en Christ. Et donc, être prêt à quitter pour le Seigneur, c'est aussi être conscient que Dieu pourvoira aussi à tous nos besoins. Pierre et les autres disciples, ils ont répondu à l'appel de Jésus, et ils ont tout quitté pour le suivre. Et dans Matthieu 19, verset 27, un moment justement Pierre, parce qu'avant le Seigneur parlait de ce jeune homme riche qui n'a pas voulu quitter ses biens lorsque le Seigneur lui a dit « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi ». Le jeune homme riche est parti tout triste. Et donc Pierre, le Seigneur dit qu'il sera dur, difficile pour les personnes qui ont de l'argent d'entrer dans le royaume de Dieu. Et donc Pierre, voyant cela, dit « Mais voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Et au verset 29, le Seigneur dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère, je dirais, ou sa femme pour certains, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, il recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Être prêt à quitter au nom du Seigneur Jésus, sachant qu'il pourvoira à tous nos besoins. Et donc, en étant avec Élie, Élisée va apprendre à dépendre de Dieu et il va apprendre aussi à mieux connaître le Dieu d'Élie. Pour répondre à l'appel de Dieu, il faut être prêt aussi à agir pour Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 21, il est dit que « Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. » Et donc, pour agir, il faut se lever. Et si l'on doit se lever, c'est parce que l'on est couché, voire même endormi. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent dans l'attente. Ils attendent que les choses se passent. Et bien qu'ils voient le travail qui est à faire, ils attendent qu'un autre le fasse. Ou espèrent qu'un autre viendra, je ne sais où, pour pouvoir le faire, ce travail. Et répondre à l'appel de Dieu, c'est être prêt à se lever pour pouvoir agir. Et si on n'est pas prêt à se lever, c'est parce qu'on est endormi. Et les chrétiens endormis sont comme ceux d'Éphèse qui ont abandonné leur premier amour. Et le Seigneur dit à cette église, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Dans Apocalypse 2, versets 4 à 5. Les chrétiens endormis sont comme ceux de Sardes qui passent pour être vivants, mais qui sont morts. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit dans Apocalypse 3, verset 1. C'est le Seigneur Jésus qui le dit à cette église. Donc le Seigneur veut que nous nous levions pour lui, que nous soyons prêts à agir pour lui, que nous nous mettions à l'œuvre pour lui. Alors, qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur. Quelle activité penses-tu qui devrait être faite et qui ne l'est pas? Lève-toi et prends en main le travail à faire. Bien sûr, avec l'accord sous l'autorité des anciens. Parce que chacun ne fait pas ce qu'il veut comme il veut. Et parfois, on voit toujours, ah oui, il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais quand il s'agit, je t'encourage, lève-toi, sois prêt à t'engager, à faire. Et là, par contre, il n'y a plus personne. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. La moisson, elle est grande. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à se lever pour pouvoir agir? L'apôtre Paul, il a demandé au Seigneur sur le chemin de Damas, « Que veux-tu que je fasse ?» Et la réponse du Seigneur Jésus a toujours été pour moi un signe important quand il dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Le Seigneur aurait pu lui dire « Oui, va annoncer la parole, je t'appelle à être apôtre et puis voilà. » Le Seigneur aurait pu lui dire ça tout de suite. Non, puisque le Seigneur savait qu'il fallait que l'apôtre Paul apprenne des autres, que l'apôtre Paul apprenne à se soumettre aussi aux autres, que l'apôtre Paul soit dépendant aussi des autres comme ils doivent dépendre de Dieu. Et donc pendant presque 17 ans, entre le temps de sa conversion et quand il va partir en mission, c'est tout un temps où il va apprendre. Un moment, il va se retirer pour pouvoir apprendre de Dieu. Il va revenir. Les gens n'ont pas très confiance en lui. Mais dans son cœur, il sait qu'il aime le Seigneur Jésus. Il veut le servir. Mais il a attendu et il prêchait autour de lui le Seigneur Jésus-Christ. Et il a fallu que ce soit Barnabas qui aille le chercher, le présenter aux autres. Et puis, lorsqu'il y a eu un besoin, on est venu le chercher. Il ne s'est pas imposé, l'apôtre Paul. Et va, on te dira ce que tu dois faire. Et donc, le Seigneur a parlé à Ananias. Ananias est allé le voir alors que l'apôtre Paul ne voyait rien. Et lui a dit, voilà, qu'il soit baptisé et puis qu'il puisse servir le Seigneur. Va et on te dira ce que tu dois faire. Le problème, c'est que nous sommes dans un temps où les gens ne veulent plus entendre qu'on leur dise « Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela ?» On ne veut plus entendre cela. Chacun veut faire ce qu'il veut, mais il n'est pas prêt à s'humilier, à se discipliner pour entendre et dire « Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Que puis-je faire pour toi ?» Et puis, voilà, « Est-ce que tu peux faire ceci ?» Et se mettre au service. Posons cette question au Seigneur, frères et sœurs. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et nous pouvons aussi demander à un frère ou à une sœur, que puis-je faire pour toi? En quoi puis-je t'aider? Et ainsi, nous ne serons pas des chrétiens endormis, mais des chrétiens bouillants pour le Seigneur. La troisième chose, c'est que nous devons être prêts à répondre à l'appel de Dieu, en nous mettant donc au service de notre maître. Il est dit que Élisée, il se leva, suivit Élie et fut à son service. Et donc, pour le suivre et le servir, cela a demandé donc de la discipline, se lever et se coucher à des heures imposées par le maître, marcher des heures entières sans savoir forcément où il allait. Donc, il fallait qu'il suive le maître. Élie. Et donc, il fallait que Élisée apprenne à se discipliner et être à la disposition de son maître. Ça demande aussi un renoncement à soi-même, oublier les choses que l'on aime, accepter les privations, accepter d'être commandé par un autre, etc., etc. Nous, notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Être à son service demande aussi de la discipline et un renoncement à soi-même. Et donc le fait de, de suivre et de servir le Maître Jésus-Christ, cela nous permet de mieux le connaître. Élisée, justement, il a appris à mieux connaître Élie, qui fait qu'il ne voulait vraiment pas se séparer de lui, et même que lorsqu'il a su que Dieu allait reprendre Élie, il dit « Non, non, je ne te quitterai pas ». Il n'a pas voulu lâcher Élie parce qu'il fallait vraiment qu'il aimait et il voulait rester avec lui. Je dirais, en tant que chrétien, ça doit être pareil pour notre amour pour notre Seigneur Jésus. Être toujours au plus près du Seigneur Jésus-Christ. Chercher toujours cette intimité avec notre Seigneur pour pouvoir mieux le connaître et pour pouvoir mieux le servir. Le fait de suivre et de servir le Maître, cela permet aussi de, non seulement de mieux le connaître, mais aussi de recevoir de lui des connaissances et des capacités nouvelles. Voilà. Dieu donne des capacités que nous ne pouvons pas imaginer. Et Élisée, il a non seulement accompli beaucoup de miracles, il a fait comme Élie, voire même plus qu'Élie. Et les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont accompli des choses qui ont attesté aussi qu'ils étaient vraiment les serviteurs de Dieu et que la parole de Dieu était en eux. Donc, quand on se met au service du Seigneur, on apprend et on grandit. On progresse dans la vie. L'autre chose, c'est que ça nous permet aussi de refléter les caractères du Maître. Lorsqu'on compare la vie d'Élie et d'Élisée, on voit qu'Élisée faisait ce qu'Élie faisait. Et lorsqu'il parlait, il était écouté, sa parole était puissante. Il recherche la puissance de Dieu pour accomplir sa tâche. Et même il a voulu une double portion de l'esprit d'Élie. Voilà. Il voulait être comme son maître et il voulait même être que Dieu puisse l'utiliser pleinement pour cela. Mais aussi, je veux noter aussi que le fait de suivre le maître et de le servir, cela permet de garder en tête nos priorités. Servir le maître et lui seul. Lorsqu'on garde cette intimité avec le Seigneur Jésus, lorsqu'on veut le servir, on est prêt à le faire et on comprend que c'est lui seul notre maître. Et que c'est lui seul qu'on doit servir. Lorsqu'on s'éloigne de lui, là, on commence à se perdre. Et là, Satan, il commence à faire son travail parce qu'il voit des ouvertures. Mais plus on est proche du Seigneur Jésus-Christ, et plus cette réalité, tu serviras le Seigneur, ton Dieu, et lui seul. Lui seul. Le Seigneur a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. C'est car il haïra l'un. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc voilà, sommes-nous prêts, frères et sœurs, à répondre à l'appel de Dieu. Chacun reçoit de Dieu un appel. Au départ, voilà, c'est parfois dans plusieurs étapes. Le Seigneur appelle parfois dans les petites choses. Et il voit notre fidélité. Il voit aussi notre cœur, notre bonne disposition de cœur. Et puis après, il va nous appeler à autre chose. Et puis après, à autre chose. Et puis, et ça continue. Donc, réfléchissons, frères et sœurs, et pensons à ce que le Seigneur attend de nous. Il nous a donné son esprit. Nous qui croyons au nom du Fils de Dieu, et il nous révèle aussi ce qu'il veut que l'on fasse. Alors comment allons-nous répondre à son appel? En tout cas, nous avons vu qu'il faut être prêt à tout quitter pour lui, être prêt à se lever pour pouvoir agir pour lui, mais aussi en se mettre à son service pour le servir lui seul. Voilà, que le Seigneur parle à nos cœurs, que cela ne reste pas juste des paroles, mais que nous puissions nous humilier devant le Seigneur et en entrant chez nous, et même maintenant, que chacun puisse examiner devant Dieu examiner sa vie avec le Seigneur et se poser la question, est-ce qu'il est prêt ou pas à répondre à son appel? Amen.